Bonsoir à tous, vous êtes sur RFI, il est 1h à Paris, minuit en temps universel.
Christophe Drevet.
Au sommaire de ce journal, Israël au bord de la crise institutionnelle. Le Premier ministre a pris la décision de limoger le chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, ce à quoi s'oppose ouvertement la justice israélienne. Le verdict tombe à Paris dans le procès des geôliers du groupe État islamique. Mehdi Nemmouche, reconnu par les journalistes qui avaient été séquestrés en Syrie, est condamné à la prison à perpétuité. Réaction de l'un des journalistes otages, Didier François, dans ce journal. Et puis la fin du chaos à l'aéroport d'Heathrow à Londres. Un incendie avait mis le plus grand hub aérien d'Europe à l'arrêt. Les vols reprenaient progressivement ce vendredi soir après une pagaille qui a touché une bonne partie du trafic mondial. Israël est au bord de la crise institutionnelle. La plus haute instance judiciaire israélienne a en effet décidé de geler la décision du gouvernement de limoger Ronen Bar, le chef du service de sécurité intérieure, le Shin Bet. Le Premier ministre israélien menace néanmoins de passer outre. Du coup, la procureure générale du pays met en garde Benjamin Netanyahou et le plus grand syndicat israélien donne un préavis de grève générale. À Jérusalem, Michel Paul.
La haute cour de justice israélienne suspend le limogeage du directeur du Shin Bet à la demande de plusieurs partis d'opposition. Mais attention, à ce stade, il s'agit seulement d'une injonction temporaire. Dans les jours qui viennent, les juges devraient se réunir pour trancher sur la question. En tout cas, les leaders du mouvement de protestation saluent cette décision. Le temps est venu de rendre le pouvoir au peuple, affirme-t-il. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou campe sur ses positions. Selon la loi, c'est le gouvernement qui décide qui dirige les agences de renseignement, proclame-t-il. La procureure générale d'Israël souligne pour sa part que tant que la Cour n'a pas statué de manière définitive, il est interdit de prendre toute mesure portant atteinte au statut du chef du Shin Bet. Pas de nouvelle nomination, ni même de contact à cet effet, explique-t-elle. Gali Barav Miara fait elle-même l'objet d'une procédure de destitution lancée par l'exécutif. Mais ce n'est pas tout. La Histadrut, la grande centrale syndicale israélienne, l'Israel Business Forum qui représente les plus grandes entreprises privées du pays et les pouvoirs locaux menacent de mettre à l'arrêt l'économie israélienne si le gouvernement ne respecte pas le référé des juges de la Cour suprême. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Le ministre israélien de la Défense a menacé, lui, ce vendredi, d'annexer des parties de Gaza si le Hamas ne libère pas la soixantaine d'otages israéliens qu'il retient. En attendant, Israël poursuit son offensive pour le quatrième jour consécutif. Après avoir rompu la trêve, les opérations aériennes et terrestres ont déjà fait plus de 500 morts en 4 jours. Le porte-parole de la Défense civile de Gaza, contrôlé par le Hamas, fait état de 11 nouveaux morts ce vendredi. L'armée israélienne dit avoir frappé des terroristes dans un hôpital désaffecté de Gaza, utilisé comme base par des combattants du Hamas. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'armée en réponse aux accusations turques d'avoir délibérément ciblé un hôpital. Le ministère de la Santé du Hamas a lui dénoncé un crime odieux. Et puis Paris a de son côté exprimé sa consternation après que 2 ressortissants français employés des Nations Unies ont été sérieusement blessés. Un citoyen britannique a également été blessé par des frappes sur 2 bâtiments hébergeant des personnels onusiens dans lesquels un employé bulgare a lui été tué. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni appellent à un retour immédiat du cessez-le-feu à Gaza. On ouvre à présent le dossier terrorisme. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. C'est la peine prononcée à l'encontre de Mehdi Nemmouche, le principal accusé du procès des geôliers du groupe État islamique qui se tenait à Paris. Il a été reconnu coupable de séquestration et actes de torture et de barbarie commis en Syrie. La Cour a élargi le périmètre des victimes à tous les otages occidentaux séquestrés en 2013 et 2014 en Syrie. Cela comprend aussi ceux qui ne sont pas revenus, mais également les citoyens syriens non identifiés détenus par les geôliers. Ce dont se félicite l'ex-otage Didier François. Écoutez.
Honnêtement, ce procès, il a été exceptionnel. Il a donné la parole, il nous a donné la parole, mais il a donné la parole à tous nos camarades qui ne sont pas revenus. Tous nos camarades européens, américains, britanniques, les Syriens ont pu être entendus, raconter ce qu'ont vécu au quotidien les Syriens face à l'État islamique qui a torturé en masse, liquidé en masse, qui a quand même réduit en esclavage sexuel les yézidis. Franchement, on a réussi à porter leur voix au-delà de notre cas. La Cour a accepté de les joindre à notre situation d'otages français, journalistes, connus. Donc évidemment, pour nous, c'est plus facile de s'exprimer. Eux n'avaient aucun espace pour parler, pour raconter leur souffrance, pour raconter leur calvaire. Et bien aujourd'hui, une cour française leur a donné cette voix, leur a donné cette possibilité d'exister. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est tout à notre honneur et c'est vraiment quelque chose de fort.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à ce procès, Laura Martel. Rappelons que Medine Mouche purge déjà une peine de réclusion à perpétuité pour l'attentat du musée juif de Bruxelles, où il avait abattu 4 personnes en 2014. Au cours de ce procès, il a reconnu avoir été un terroriste et ne jamais vouloir s'en excuser. Et puis au Niger, le gouvernement de transition annonce un nouveau massacre de civils, selon un communiqué lu à la télévision d'État, Télé Sahel, ce vendredi soir. Au moins 44 civils ont été tués dans une attaque djihadiste contre un village dans la zone des trois frontières, dans le sud-ouest du pays. Le ministère de l'Intérieur accuse des membres du groupe État islamique d'avoir encerclé une mosquée et massacré les fidèles en pleine prière du début d'après-midi. Ils sont également accusés d'avoir incendié le marché et des habitations. Le bilan comprend aussi 13 blessés. Un deuil de 72 heures débute ce samedi. Après une journée de chaos, l'aéroport d'Heathrow a repris peu à peu son activité avec plusieurs vols programmés ce vendredi soir à Londres. Le plus gros aéroport d'Europe était fermé depuis vendredi matin en raison d'un incendie sur des installations électriques. Les 1350 vols prévus au départ et à l'arrivée d'Heathrow ont dû être annulés, reportés ou détournés. Le trafic reprend progressivement avec quelques vols annoncés ce vendredi soir vers Johannesburg notamment. Emeline 20, maintenant c'est l'opération retour à la normale.
Dans un premier temps, vendredi soir, deux priorités. La première, c'est le rapatriement des passagers dont les liaisons ont été détournées et qui ont atterri à Paris, Amsterdam ou Munich, par exemple. La deuxième, faire revenir les avions et le reste du matériel resté coincé dans d'autres aéroports. Les passagers qui devaient voyager vendredi restent invités à ne pas se rendre à Heathrow, sauf si indication contraire de la part de leur compagnie aérienne. British Airways, par exemple, a repris quelques liaisons long courrier. Dans un deuxième temps, samedi, Heathrow espère que tous les vols planifiés samedi pourront opérer comme prévu. Ce serait une bonne nouvelle qui limiterait les perturbations craintes par l'industrie aéroportuaire mondiale. En revanche, c'est encore le flou pour les passagers de vendredi dont les vols ont été annulés. Une passagère qui devait rentrer à San Francisco raconte avoir passé sa journée à tenter de joindre sa compagnie pour finalement devoir réserver un nouveau vol par elle-même lundi. Le patron de l'aéroport d'Heathrow présente ses excuses à tous les voyageurs mais assure que la décision de fermer l'aéroport était la meilleure possible. Emeline Van, Londres, RFI.
On parle de sport maintenant. Les mondiaux d'athlétisme en salle ont commencé ce vendredi à Nankin en Chine. Deux Français engagés ce vendredi soir, à savoir Célia Perron sur le pentathlon et Melvin Raffin en triple saut. Demain chez les Bleus, les regards seront notamment tournés vers Willem Belossian qui débutera sa compétition sur 60 mètres haies. Le Français aborde ces mondiaux avec ambition quelques jours après sa médaille d'argent au championnat d'Europe en salle aux Pays-Bas. Mathis Landais.
Deux semaines, c'est le très court intervalle de temps laissé aux athlètes entre les championnats d'Europe en salle et l'équivalent international, les mondiaux. Pour Willem Belossian, double champion de France en titre du 60 mètres haies, il faudra retrouver toute son énergie pour aborder au mieux la compétition.
C'est un peu dur de se remobiliser après un championnat, parce qu'on ça reste un championnat, donc on laisse quand même pas mal de jus là-bas, surtout nerveusement. Mais en tout cas, on est sur une continuité, donc on prend le wagon et on y va.
S'il a remporté les championnats du monde junior sur 110 mètres haies en 2014, Willem Belossian n'a jamais fait mieux qu'une 8e place aux mondiaux en salle chez les seniors. À Nankin, il s'agit de sa 3e participation et l'athlète de 29 ans, entraîné par l'ancien triple sauteur français Teddy Tamgo, ambitionne clairement le podium.
Je vais pour la médaille d'or, ça va être une très belle bataille. Maintenant, après, on sait que sur un championnat, tout reste possible. Maintenant, on sait qu'il y a un cadre qui est là, c'est Holloway. C'est à moi de faire le nécessaire pour pourquoi pas le titiller ou pourquoi pas le gagner, on sait jamais.
En plus de l'américain Grant Holloway qui écrase la discipline, Belossian retrouvera Jakub Zimanski. Au début du mois, le Polonais l'avait privé de médaille d'or pour 200e en finale des championnats d'Europe.
Et puis le lancement ce vendredi et pour tout le week-end du 31e SIDAction, un appel à mettre le paquet sur la recherche et un cri d'alarme. Cette édition entend plus que jamais soutenir la lutte contre le sida, en partie ralentie à travers le monde en raison des coupes budgétaires américaines. Voilà, il est 1h10 à Paris. Excellente soirée à tous.